Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Demandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Révision constitutionnelle alors que le président de la République poursuit les consultations sur le projet. La plateforme Anteabana touche pas à ma constitution, maintient sa demande de retrait pur et simple de ce programme. Les responsables de Anteabana ont même menacé d'utiliser tous les moyens légaux afin de faire aboutir leurs revendications. Le projet sera-t-il retiré? La plateforme mettra-t-elle en œuvre sa menace? Que prévoit Ibeka pour la suite du processus? Nos invités, Maître Abderrahmane Ben Mamata Touré de la plateforme Anteabana au téléphone, Jakari Poudjougo, enseignant à l'université de Bamako avec nous en studio, et Maître Amadou Tchéoulin Diara, avocat. Je rappelle que Mohamed Ould Sidi, député RPM qui devait représenter ici la majorité, nous a fait faux bond à la dernière minute. Je suis Mouhamadou Touré.
Le Grand Dialogue.
Alors, nous parlons ce soir encore de révision constitutionnelle, un projet engagé depuis longtemps mais qui suscite beaucoup de réactions à travers le pays. Maître Abderrahmane Ben Mamata Touré, vous êtes un des leaders de la plateforme Anteabana touche pas à ma constitution. On me fait signe que vous n'êtes pas encore en ligne. Alors, monsieur Jakari Poudjougo, vous, que pensez-vous de ce processus de révision constitutionnelle et l'évolution de la situation?
Je dirais que c'est très sérieux. Je ne dis pas que c'est grave, mais c'est sérieux. Il faut être serein. Il ne faut pas dire que c'est grave, mais c'est sérieux quand même. Et la Constitution, c'est quand même un texte qui a une importance particulière. C'est la loi fondamentale. C'est la loi des lois. Elle est à la base même de l'État. C'est elle qui garantit les droits fondamentaux. Donc la révision d'une Constitution n'est pas une petite affaire.
Tout à fait.
Et il faut beaucoup de prudence, il faut beaucoup de sagesse. Et les difficultés soulevées suite au projet de révision constitutionnelle sont nombreuses. Et pour commencer, je vais quand même aller droit au but. Vous m'avez invité et je vais assumer mon rôle. Nous avons, on a trop longtemps menti au peuple.
C'est-à-dire
déjà, avant qu'on ne parle des difficultés qui sont là, la révision de la Constitution a parmi ses objectifs principaux la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Beaucoup n'a pas été dit, c'est-à-dire il y a des choses sur l'accord pour la paix et la réconciliation qui n'avaient pas été communiquées au peuple. Et je me rappelle d'une histoire que j'ai lue dans la Bible qui dit l'histoire de quelqu'un qui a construit, qui a fondé sa maison sur du sable. La pluie est tombée et cette maison n'a pas tenu. On ne peut pas construire une nation sur du mensonge. Il y a ce que j'appelle le mensonge d'État.
Non, vous accusez autorités de ne pas avoir communiqué concernant le projet même de l'accord de paix.
Il y a un mensonge et il faut dire la vérité. L'homme n'est pas parfait, mais quand il y a des erreurs, il faut revenir pour les corriger, pour aller loin. Nous avons entendu, je l'ai dit, le projet de révision constitutionnelle a parmi ses objectifs principaux l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation. Mais cet accord, que vaut-il juridiquement? Et ça n'a pas été dit suffisamment. Et là, je voudrais quand même critiquer un peu la Cour constitutionnelle. On dit oui, c'est une autorité judiciaire, c'est vrai. Il y a l'autorité de la chose jugée. Mais en tant qu'enseignant du droit, nous apprenons à nos étudiants comment faire le commentaire d'arrêt, de voir si le juge a vraiment bien interprété le droit. Et ici, je trouve que la Cour constitutionnelle a manqué d'audace. Elle n'a pas vraiment dit le droit. Il faut le dire.
Quand elle parle d'insécurité juridique, êtes-vous d'accord avec elle?
Je ne sais pas. Quelle est la formation que les membres de la Cour constitutionnelle ont eue? Mais je ne suis pas du tout satisfait de cette interprétation de la Cour constitutionnelle. À deux reprises, la Cour constitutionnelle a eu à se prononcer sur la valeur de l'accord pour la paix et la réconciliation. Elle ne l'a pas fait du tout. Vous avez un projet de révision constitutionnelle qui est fondé principalement sur l'accord pour la paix, le juge constitutionnel se réfère tout le temps à l'accord pour la paix et la réconciliation sans se poser la question de savoir si cet accord a une valeur juridique. C'est inquiétant là. Et dans un pays, lorsque le droit n'est pas dit, lorsque le droit n'est pas valorisé, on ne peut pas construire une nation. Et là, on nous parle du droit international, en parlant d'intégrité territoriale. Mais c'est grave. On ne saurait contester l'existence d'une atteinte à l'intégrité territoriale au Mali aujourd'hui. Nous le voyons chaque jour.
Maître Amadou Tchaoulé Ndiara, êtes-vous d'accord avec M. Diakari Poudjougo par rapport à son avis?
Oui, merci Radio Tamani. Moi, le problème, c'est que en fait, en matière d'accord d'Alger, il me semble que le seul point important, c'est la question du Sénat. Un point très, la question du Sénat, elle avait été prise en charge par la réforme de Konaré, par la réforme d'ATT. Donc fondamentalement, c'est la question du Sénat, et c'est ce qui apparaît dans la révision. Normalement, c'était le seul point normalement qu'on devrait mettre en œuvre. Mais je pense que les initiateurs en ont profité pour mettre autre chose là-dedans. Moi, je n'ai rien contre l'accord d'Alger en tant qu'accord politique. Quand il y a un accord politique, ça veut dire qu'un accord politique doit amener à la paix. Un accord politique doit amener à la stabilité d'un pays. Un accord politique doit amener la cohésion sociale. En tant qu'instrument politique, évidemment, nous pouvons être amenés, en tant que nation souveraine, à revoir les règles fondamentales qui nous gouvernent. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Mais la question de fond, si nous prenons le texte constitutionnel révisé, mais mis à part la question du Sénat, je ne vois pas autre aspect de l'accord d'Alger pris en compte par cette réforme constitutionnelle.
Vous dites que c'est le Sénat qui a été pris en compte et qu'ils ont profité de ce processus de révision constitutionnelle pour mettre autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont mis qui n'est pas bon, selon vous?
À mon avis, on ne va pas toucher. Il y a des pouvoirs, aujourd'hui, les pouvoirs en fait qu'on a mis à la disposition du président de la République, on n'en a pas besoin.
Notamment?
On n'en a pas besoin. Non, la réforme, les pouvoirs républicains du président de la République, c'est les pouvoirs traditionnels qui sont dans la Constitution de 92. Je pense que ces pouvoirs lui valent. Et la preuve est faite que le président a gouverné jusqu'ici sans anicroche. En réalité, et puis fondamentalement, tout le problème se situe à ce niveau. Et les gens ont des inquiétudes. Moi, par exemple, je ne suis pas contre la révision de la Constitution. Ce sont les conditions qui ne sont pas remplies. Parce que quand il y a une révision, chacun a son point d'ancrage. J'ai mon point d'ancrage qui est effectivement la possibilité de la saisine de la Cour constitutionnelle par le citoyen lambda. C'est ça mon point d'ancrage. Mais on en a profité effectivement pour toucher des pouvoirs du président de la République. Or, la contradiction fondamentale qui est là-dedans, c'est que quand on parle de décentralisation, la décentralisation, en fait, rétrécit la puissance publique de l'exécutif. Nous parlons de décentralisation. Et en même temps, nous voyons, en fait, l'accroissement des pouvoirs de l'exécutif. C'est quand même quelque chose qui étonne.
Alors, Maître Amadou Tchaoulé Ndiara, nous allons revenir avec vous tout de suite. Monsieur Maître Abderrahman Ben Mamata Touré, vous, quelle est votre position, vous qui représentez ce soir la plateforme Antea Bana, qui demande le retrait pur et simple de ce projet de révision constitutionnelle?
Oui, merci beaucoup, Monsieur Touré, et bonsoir à mon éminent confrère, le professeur Ate Diarra, que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, comme d'habitude d'ailleurs. Je voulais simplement préciser quelque chose, c'est que le projet en cours est une initiative politique. Quand on regarde très bien ce projet, c'est d'abord une initiative présidentielle. Et puisque le combat juridique semble clos, comme le professeur l'a dit, avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle à la suite de son avis, le débat judiciaire, on peut, sur le plan académique, le mener, c'est intéressant, ça peut nous donner également beaucoup de possibilités d'analyse, mais pour moi, le débat judiciaire est clos. Aujourd'hui, le combat, il est politique. Et dans le cadre de ce combat politique, une initiative politique peut être retirée purement et simplement. Lorsqu'on s'engage dans une révision constitutionnelle, quand même, c'est un événement assez spécial dans la vie d'un pays, et qu'on voit autant de mobilisation, autant d'inquiétudes par rapport à ce projet, moi je pense qu'il importe de prendre la mesure du climat social et de se dire que le peuple, en partie, n'est vraiment pas d'accord avec ce projet. Avec des arguments d'ailleurs assez fondés, les débats nous ont prouvé à chaque fois que les arguments avancés par la plateforme Anter-Abanan sont des arguments très pertinents, républicains d'ailleurs, et qui ne peuvent être envisagés franchement sans une concertation, sans également discuter du moment de cette révision. Le professeur a touché un certain nombre de points ici qui me paraissent très importants, sur lesquels il faut peut-être revenir. Le premier motif de la révision, c'est la prise en compte, c'est l'adaptation plutôt de la Constitution à l'accord. Sur le principe, déjà intellectuellement, moi je pense que c'est quelque chose d'inacceptable et d'assez inédit au Mali que d'adapter la loi fondamentale à un accord politique. C'est vrai qu'un accord politique, il existe, mais que dit cet accord politique? Quels sont les points d'impact de cet accord politique sur la Constitution? On n'a jamais parlé de ces points-là. Si on adapte la Constitution à un accord, ça veut dire que cet accord est contraire à la Constitution. Qu'est-ce que cet accord a de contraire à notre Constitution et qu'il faille adapter la Constitution à cet accord-là? Je veux vous dire très simplement que cet accord viole le principe républicain même de l'État. Parce qu'il ne suffit pas simplement de proclamer dans le document que le Mali reste uni et que le Mali reste une république. La république, c'est un agrégat d'un certain nombre de valeurs, au rang desquelles l'égalité, l'absence de discrimination. Et si vous prenez cet accord issu du processus d'Alger, il est truffé simplement d'aspects relatifs à la division des Maliens, à la séparation des Maliens. On s'en prend des catégories de Maliens du Sud, des catégories de Maliens du Nord, avec des préférences pour les ressortissants du Nord au niveau des grands services et institutions au niveau national, des préférences aux ressortissants du Nord en matière de recrutement au niveau de la fonction publique des collectivités territoriales. Donc il y a tout un amalgame, il y a toute une introduction de la dimension ethnique dans le règlement de ce conflit, comme si le Mali était un pays où les gens du Nord sont en conflit avec les gens du Sud.
Alors, vous avez lancé un ultimatum, Maître Touré, qui devrait expirer ce soir, et vous avez même tenu une rencontre ce soir, cet après-midi, par rapport au processus de révision constitutionnelle. Quelles sont les conclusions de cette rencontre?
La rencontre n'est pas terminée encore. Hein. La rencontre n'est pas terminée encore. Je ne saurais vous donner les conclusions. Les communications officielles, les communiqués officiels viendront en temps opportun. À cet instant, je ne pourrais pas vous donner, franchement, quoi que ce soit.
Mais déjà, quelle est votre position, vu que vous avez même publié un communiqué hier?
Bon, la position de la plateforme, elle n'est pas compliquée. Il faut simplement retirer le projet. Nous pensons que c'est quelque chose qui n'est pas au-dessus des forces du président de la République. Toutes les rencontres qu'il a faites, toutes les personnes qu'il a rencontrées en dehors de son cercle immédiat lui ont soufflé, franchement, qu'il faut arrêter cette affaire-là. Elle ne peut pas continuer. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que le président s'est engagé. Il a parlé trop vite. Il pense que l'engagement devant la France ou la communauté internationale est supérieur à l'engagement devant le peuple malien. C'est un choix politique, nous en prenons acte et nous en tirons toutes les conséquences de droit. La désobéissance civile, c'est un droit qui est consacré par la Constitution du Mali chaque fois que la République est menacée. Et nous pensons que notre République est menacée parce que l'ensemble des valeurs qui donnent à l'État sa forme républicaine, comme je viens de le dire tout à l'heure, sont carrément bousculées par cet accord issu du processus d'Alger. Donc accepter cette révision constitutionnelle pour l'adapter à l'accord d'Alger, c'est un grand recul pour la République du Mali. Et le professeur avait souligné un point tout à l'heure par rapport à la Constitution en disant que c'est l'introduction simplement du Sénat qui était le point d'impact. Moi, je vais plus loin en disant qu'il y a quelque chose de fondamentalement insidieux dans ce projet qui est l'article 143, la modification de la Constitution par la voie du Congrès. Je pense que c'est l'un des articles les plus dangereux qui permettent à n'importe quel régime, lorsqu'il viendra maintenant, de prendre en compte tout ce que l'accord issu du processus d'Alger prévoit et qu'on ne peut pas faire passer parce que simplement on doit demander au peuple, on doit soumettre ces choses-là au peuple. À partir du moment où on met en place dans le projet de constitution un article 143 qui permet de contourner le peuple, on peut réviser dorénavant la constitution du Mali sans pour autant soumettre cela à l'avis du peuple. Je pense que c'est très dangereux, non seulement pour l'unité du Mali par rapport à l'intégration de tous ceux dont je viens de parler par rapport à l'accord d'Alger, c'est dangereux également dans la mesure où chaque régime qui va venir pourra maintenant faire sa constitution.
Merci.
Et on se retrouverait au Mali à nous demander quelle version de la constitution vous avez. Donc on pourra réviser chaque fois qu'on veut la constitution du Mali.
Merci, Maître Touré.
Si vous voyez que le Mali est encore République du Mali...
Vous aurez tout de suite la parole, Maître Touré. Je rappelle que nos tentatives pour avoir un représentant de la majorité présidentielle sont restées vaines. Maître, Monsieur Diakari Poudjougo, que pensez-vous de cette position de la plateforme Ante Abana, touche pas à ma constitution par rapport à cette révision constitutionnelle?
Bien, merci. Avant de vous répondre, je voudrais quand même réagir par rapport à ce qui a été dit à mon intervention. Et le débat juridique n'est pas du tout clos. Je pense que nous devons faire très attention parce que dans notre pays, on ne donne pas au droit sa place. Je dis souvent à mes étudiants que le juriste est en quelque sorte un demi-prophète. La paix, la fonction sociale essentielle du droit, c'est la paix sociale. C'est par le droit qu'on arrive à la paix sociale. Et ce débat, il n'est pas du tout clos et il doit encore être mené. Ça, c'est un. Et un autre à souligner que l'accord est politique, mais il doit apporter la paix. Et quand on regarde les accords politiques de ce genre, la Côte d'Ivoire en a eu les siens, les accords de Marco aussi. Est-ce que ça a amené la paix? En Colombie, nous avons vu. Et en Sierra Leone aussi, de tels accords ont été signés. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des accords politiques si cela pourrait amener la paix. Mais il faut que ces accords politiques respectent les procédures légales, juridiques. L'accord pour la paix et la réconciliation n'a pas respecté les procédures légales. On nous a fait croire dans des discours officiels que cet accord engage le Mali, que c'est un engagement pour l'État malien. Ce que la Cour constitutionnelle a repris aussi. En quoi cet accord engage l'État malien? Il ne nous engage pas du tout juridiquement. En Sierra Leone, lorsque l'accord a été signé, le Parlement sierra-léonais l'a ratifié. Si on avait fait passer cet accord par le Parlement malien pour une ratification, on ne serait pas arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Ça n'a pas été fait. Quel est le fondement légal que cet accord a? Ça, c'est un grand mensonge. Et je crois que le débat ne doit pas être clos à ce niveau. La plateforme Ante Abana a raison de s'inquiéter. Lorsque les principes fondamentaux qui régissent l'État sont menacés, il faut quand même dire quelque chose. Il y a la liberté d'expression. Il faut s'exprimer. Et j'ai aimé une chose dans leur communiqué, c'est qu'ils ont dit tous les moyens légaux. Il faut agir de façon légale et surtout de façon pacifique. Il ne faut pas de la violence, mais ce qui ne va pas, il faut le dire. Je crois qu'il faut reporter ce projet et que les conditions, nous ne sommes pas contre la révision de la Constitution. Une Constitution par nature, elle peut être révisée, sinon c'est une œuvre humaine. Mais la révision est conditionnée à une procédure. Et cette procédure doit être respectée. À certains moments, ça a été fait. Mais en ce qui concerne la situation sécuritaire, on le sait que ce n'est vraiment pas le moment. Je crois que ce serait très sage de reporter et d'attendre que les conditions soient réunies. Par exemple, si nous voyons ce qui se passe au nord, sur une grande partie de notre territoire, l'autorité n'est pas présente. Si cette condition est acceptée, le retour de l'autorité de l'État dans ces régions est assuré, alors on peut accepter d'aller au référendum. Mais on ne peut pas continuer à nous faire avaler qu'il n'y a qu'une insécurité résiduelle. Ça, c'est une lecture archaïque de la réalité aujourd'hui. Et nous obliger à aller au référendum. Je crois qu'il faut être prudent. Ce n'est pas le moment. Oui, il y a dans ce projet de révision constitutionnelle des choses très importantes et sérieuses, comme par exemple l'adaptation de la Constitution au règlement de l'IOMOA, la création d'une cour des comptes. Ça, c'est par exemple quelque chose qui est bien justifié. Mais le moment n'est pas opportun. C'est sur ce point-là.
Au-delà du moment choisi, il y a Maître Amadou Tchéoulindjara qui n'est pas d'accord avec le contenu, une partie du contenu du projet de révision constitutionnelle, parce qu'il pense qu'ils ont profité de ce processus pour ajouter d'autres choses. Est-ce que c'est votre avis aussi?
Le contenu, oui, effectivement, il y a des dispositions qui ne devraient pas passer. Et là, je crois que même la Cour constitutionnelle l'a souligné. Il faut reconnaître que sur ce point, elle a fait aussi quand même un effort. Elle a fourni un effort. Par exemple, dans le serment du président de la République, le mot intégrité territoriale avait été enlevé. La Cour a souligné cela. C'était une omission. Donc, le projet peut être amélioré, mais il faut que la condition, c'est-à-dire la situation, change. On ne peut pas demander qu'on ait au référendum avec l'insécurité, avec l'atteinte flagrante à l'intégrité territoriale de notre territoire national. Et ça, on ne peut pas badiner avec. Je crois qu'on ne prend pas très au sérieux la question de l'intégrité territoriale. Et ça, c'est assez grave. On ne devrait pas jouer avec cela.
Alors, Maître Amadou Tchéoulindjara, pensez-vous que la déclaration de la Cour constitutionnelle parlant d'insécurité résiduelle, vu l'évolution de la situation sécuritaire avec les différentes attaques, notamment Tombouctou, Douanzan, dans la région de Mopti, et également cette grogne sociale, on voit qu'à Gao même, il y a les jeunes qui se sont levés pour demander le départ du gouverneur, ou sinon ils vont demander eux aussi leur indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui on peut maintenir toujours cette déclaration de la Cour constitutionnelle qui estime qu'on vit une situation d'insécurité résiduelle?
Oui, moi je suis juriste et puis j'ai un côté positiviste et puis un côté non positiviste. Si je m'en tiens à mon côté positiviste, en fait il y a un conflit entre la légalité institutionnelle et le développement des libertés d'expression sur le terrain et qui effectivement contribuent à cette légalité et cette normativité institutionnelle. La Cour constitutionnelle a rendu une décision, je la respecte, mais la décision n'est pas en fait à l'abri des critiques. Moi je pense que c'est un principe admis en droit international, qu'il s'agisse de traités, qu'il s'agisse de conventions, qu'il s'agisse d'accords simples ou complexes, un État, en fait, peut prendre en cas de danger public des mesures qui dérogent à ses obligations. Et je pense que nous sommes dans ce cas de figure. Parce que la République du Mali, le gouvernement pense que en ne révisant pas sa constitution, eh bien, le gouvernement violerait des engagements internationaux avec les partenaires. Ce qui est vrai. Mais aussi, il est vrai qu'en droit international, il est admis que les États peuvent effectivement déroger à des engagements qu'ils ont pris quand ils sont en danger, quand il y a en fait menace sur la vie de la nation. Ça, c'est clair et nous ne pouvons pas être contredits là-dessus. Je pense que notre gouvernement a des arguments pour dire que nous pouvons remettre ça. Et pas au calendrier grec, mais nous pouvons remettre ça à demain ou après-demain, le temps effectivement que ces dangers-là puissent passer. Parce que nous faisons une situation de meute un peu sur le territoire national, comme par hasard.
Qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'adopter cette procédure?
Mais parce que le gouvernement pense que... Je ne sais pas, est-ce qu'il me plaise? Parce que le gouvernement pense... Je ne sais pas, la communauté internationale, vous excusez de l'expression, n'est pas aveugle. La communauté internationale a des renseignements et des données sur le Mali que même nous n'avons pas. Parce que nous ne sommes pas présents à Menaka, nous ne sommes pas présents à Kidal, nous ne sommes pas présents en fait sur certains coins du territoire malien où la communauté internationale se trouve. Et la communauté internationale sait ce qui se passe. Mais quand on veut la paix d'une nation, mais quand il y a des situations de ce genre qui se présentent, la communauté internationale devrait pouvoir effectivement dire au gouvernement, écoutez, vous avez la possibilité de sursoir à la mise en œuvre des règles. Mais la communauté internationale peut parler en fait aux deux groupes armés en leur disant, mais remettez vos sabres dans les fourreaux, en attendant que la situation passe. Parce qu'un accord, c'est quand même la bonne foi. Mais ce que moi j'ai à dire aussi par rapport à la Troisième République, vous savez, le pacte national de 92, pendant longtemps, les gens ont dit, il y a des gens qui ont défendu que, en fait, le pacte national, eh bien, va être pris en compte par la décentralisation. Alors que dans les rédactions du pacte national, il n'y a aucun renvoi qui a été fait à une règle de la décentralisation, il n'y a aucun renvoi même qui a été fait à la Constitution. Par conséquent, il y avait un divorce total entre le pacte national et les règles qui gouvernent la décentralisation. Je pense que ce qui prévaut quand on signe un accord, c'est son esprit. C'est l'esprit d'un accord et non les règles qui comptent. Or, il me semble qu'on s'accroche aux règles en oubliant l'esprit. Ce qui est fondamental, c'est dans quel esprit la cohésion eh bien, va s'installer entre nous et nos frères du Nord. Mais il me semble aussi que la communauté internationale exagère la distinction entre le Nord et le Sud. Il y a des choses qu'on met de l'avant, c'est absolument faux, et c'est absolument faux. Il me semble qu'on monte la tension pour en fait rendre la situation impossible à gouverner. Sinon, je ne pense pas que, eh bien, nos frères ou nos sœurs de SEMA ou autres groupes puissent nous haïr jusqu'à ce point. La question de fond, c'est cela qu'il faut dire.
Alors, Maître Amadou Tchewlendjara, vous parlez de sursoir le projet Maître Touré. Dans votre communiqué, la plateforme Anteabana a estimé que les leaders religieux auraient obtenu du chef d'État de sursoir au projet de révision constitutionnelle et qu'il demande à la plateforme de lever le mot d'ordre de manifestation du 16 août. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cela?
Moi, je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, toutes les personnes que le président de la République a rencontrées et qui ne sont pas de son cercle immédiat ont eu la franchise de lui dire simplement de sursoir pour ne pas dire de retirer ce projet-là. Voyez-vous, donc quand on vous parle à des termes diplomatiques, il faut savoir également évaluer cela et prendre en compte ces données-là. Ceux qui sont allés le voir, c'était des personnalités très importantes dans ce pays-là. Et notre mouvement également a estimé qu'on doit aller un peu plus dans nos actions parce qu'on ne peut pas se contenter simplement d'être des observateurs à partir du moment où nous avons formulé des demandes de rencontres bien avant toutes les rencontres initiées par le président de la République, mais nous n'avons jamais été répondus. Donc les autres ont été appelés, mais nous, on avait initié des demandes de rencontres bien avant cela, mais on n'a pas été écoutés. Et les choses s'aggravant maintenant, on essaie d'attraper par ces voies d'autorité traditionnelle et de chefs religieux qui sont très importantes, mais il faut également accepter de rencontrer les mouvements chaque fois que ces mouvements demandent à vous rencontrer pour vous parler d'une situation qui est préoccupante pour toute la nation malienne. Je voulais revenir sur ce que j'avais dit au début de mes propos, pour préciser un peu ma pensée. Quand je dis que le débat juridique est clos, c'est par rapport au projet de révision de la Constitution, de l'avis jusqu'à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, à partir de l'arrêt, le débat juridique est clos. Mais comme je l'ai dit, c'est une initiative politique et comme telle, elle peut être retirée par la personne qui l'a émise. Maintenant, le débat sur le fond des éléments textuels, des données et tout le reste, maintenant, on peut le mener. Mais par rapport au projet et sa légalité, la Cour a donné son avis. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de poser des actes dans le cadre du combat politique maintenant pour que le retrait puisse être obtenu. Telle est notre position. Donc, je voulais apporter cette petite précision-là. Aussi, de l'autre côté, je voulais simplement ajouter que cette affaire de communauté internationale, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, la communauté internationale également se trompe éminemment. Moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre que la communauté internationale puisse soutenir des groupes armés face à un État normalement constitué. Quand on dit que les groupes armés et l'État sont sur la même position, moi, je pense qu'il y a un problème. Et ce problème, ça commence déjà par notre diplomatie. Pendant toute la phase de la crise, nous pensons que notre diplomatie n'a pas été du tout à la hauteur. Elle s'est contentée simplement de faire des remerciements et de rechercher les dons. On n'a jamais réussi à convaincre la communauté internationale que le mouvement MNLA est un mouvement autoproclamé, ultra-minoritaire, qui ne représente aucune population du nord du Mali. La conférence d'entente nationale également qui a été faite a prouvé en partie que ces gens ne représentent pas les populations du nord. Mais vous continuez à les suivre sans déconstruire ce mensonge au nom de la paix simplement. Quelle paix on nous offre? La paix qui est contenue dans cet accord, ce n'est pas une paix, c'est un mensonge qui va également créer plus de problèmes qu'il ne veut résoudre.
Parce que ce qui est dans cet accord-là, c'est l'inversion simplement de la hiérarchie, en mettant la minorité au-dessus de la majorité. Et ça, ce n'est pas acceptable. Le vocable ressortissant du Nord qui est utilisé dans cet accord, c'est pour servir la minorité armée. La majorité pacifique ne se reconnaît pas dans ces mouvements-là. On l'a dit, on l'a redit, mais nous avons un gouvernement qui ne nous soutient pas, qui ne nous appuie pas. Et vous allez constater que les seuls mouvements qui défendent la République sont en train d'être déconstruits, sont en train d'être fragilisés et mis à la portée de ces rebelles-là. Et le gouvernement suit ces choses-là de manière très complaisante et nous pensons qu'il faudrait à un moment donné se réveiller et se dire simplement qu'on ne peut pas continuer à suivre ce gouvernement qui est pris au piège, qui est affaibli, qui a peur de la communauté internationale, qui va nous amener dans un schéma où on risque de perdre le Mali totalement. Le
professeur Maître Touré, je vais revenir sur la première question. Les leaders religieux auraient obtenu du chef d'État de surseoir au projet de révision constitutionnelle. Vous demandez que seul peut faire foi une adresse officielle du président de la République, c'est bien ça?
Mais bien sûr, il faudrait que le président de la République fasse une adresse officielle pour dire qu'il retire carrément le projet, comme ça a été fait au début de ce projet-là. Sursoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, sursoir? Il faut retirer simplement ce projet. Les conditions ne sont pas réunies, il n'y a aucune honte à cela, il n'y a aucune gêne à écouter son peuple. C'est un combat politique. Vous n'êtes pas en position de faire passer cette histoire parce qu'elle n'est pas acceptée par la majorité de la population du Mali. Donc il faut simplement retirer ce projet. Le mot sursis, comme je vous l'ai dit, c'est par diplomatie simplement que ça a été utilisé pour des convenances, pour ne pas le heurter. Mais la plateforme Anté-Abana a été la seule à dire le vrai mot, c'est-à-dire qu'il faut retirer ce projet. Il n'est pas du tout bon. Il faut le retirer purement et simplement et cela est faisable.
Maître Poudjougou, on dit que c'est l'accord d'Alger qui demande cette révision constitutionnelle. Alors, si on retire ce projet de révision constitutionnelle, est-ce que ça aura des conséquences sur l'accord, le processus de mise en œuvre de l'accord de paix?
Bien, rectificatif, c'est plutôt docteur, je ne suis pas avocat.
Pardon.
Je suis juriste, c'est vrai, mais je ne suis pas avocat, je suis enseignant.
Désolé.
J'ai parlé de mensonge et je suis content d'entendre que mon mot revient dans le débat. Il y a un mensonge et ce mensonge n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a longtemps que nous sommes en train de bâtir sur le sable. Il faut changer. Allons chercher des pierres, des rochers pour construire réellement. Et si on parle beaucoup de la communauté internationale, mais c'est quoi la communauté internationale? En droit international, on parle de communauté internationale des États et on parle aussi de communauté internationale globale. On ne peut pas toujours faire appel à la communauté internationale comme si c'était une entité bien déterminée, précise. Ce n'est pas cela, la communauté internationale. Elle est parfois insaisissable. Nous devons prendre nos responsabilités. Si nous avons autant de problèmes avec le nord de notre pays, c'est parce que nous avons failli à nos obligations. Il y a eu des mensonges, la corruption, la malgouvernance. Et c'est ce qui a favorisé cela. Les Bambara disent, mais quand le mur se fissure, c'est là que le Marbella passe. Nous avons créé toutes les conditions de l'insécurité. Nous devons l'assumer. On présente souvent les Touaregs comme si c'était des machines de guerre. Mais les anthropologues l'ont démontré. L'homme aime la paix. Il n'est pas fait pour la guerre. Et les conditions de guerre ont été créées. Si nous ne prenons pas les choses au sérieux, nous verrons d'autres azawadisations, pas seulement au nord. Il faut du développement.
Mais par rapport au processus
on peut prendre les mesures.
Est-ce que le retrait du projet...
Je reviens sur ça, mais ce point est important, je ne l'ai pas oublié.
Okay.
Si nous ne prenons pas cela au sérieux, nous allons encore tomber. Il faut qu'il y ait du développement. Les Touaregs vont déposer les armes. Si on veut gérer, gouverner avec du sérieux, eux, pour le développement. Pas seulement au nord, mais de tous les territoires. Ça, c'est quelque chose sur laquelle on a longtemps menti. C'est fini, il faut arrêter. Il faut une véritable gouvernance pour le développement intégral. Et sur le projet de révision constitutionnelle, faut-il le retirer ou sursoir? Tant qu'il y aura des éléments qui portent atteinte à l'intégrité du territoire ou à la forme républicaine de l'État, il faut le modifier, parce que c'est toujours possible. Il faut une relecture pour l'améliorer et attendre le moment. Sur le moment, je suis formel, ce n'est pas encore le moment. Tant que l'intégrité du territoire est menacée, on n'ira pas au référendum. Maintenant, sur le contenu, on peut toujours l'améliorer. C'est une œuvre humaine. On peut le renvoyer encore au Parlement pour une autre lecture. Ça, c'est ce que je pense.
Maître Diarra, est-ce que vous pensez que le retrait du projet de révision constitutionnelle aura des conséquences sur le processus de mise en œuvre de l'accord d'Alger?
Non, moi, je ne crois pas, parce que moi, je considère l'accord d'Alger comme un accord politique. Par conséquent, ce qui prévaut, c'est son esprit. C'est son esprit. Avant l'accord d'Alger, nous avons vécu ensemble avec nos frères du Nord dans la convivialité. Évidemment, avec quelques dérapages, mais nous avons vécu ensemble. Il n'y avait pas d'accord d'Alger en ce moment. Je pense aussi que les frères du Nord peuvent effectivement patienter jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour que le plus grand nombre qui se trouve en exil à l'extérieur puisse retourner et donner valablement leur consentement à ce texte fondamental. Et je pense également que l'accord ne peut être l'accord ne peut être remis en cause que lorsque effectivement le gouvernement du Mali aura dénoncé le contenu. Alors fondamentalement, en conclusion sur ce point, moi je dis que le gouvernement peut déroger, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de traité auquel on ne peut pas déroger quand les conditions en fait d'un pays sont menaçantes, quand il y a danger. Et c'est à ce niveau que le gouvernement n'est pas sur n'est pas sur la même longueur d'onde que les autres là. Parce que le gouvernement, il me semble, sous-estime la question de la menace et la question du danger. Le gouvernement sous-estime, je ne sais pas pour quelles raisons. Moi, je voudrais simplement demander que le gouvernement puisse élever sa conscience, que nous sortions effectivement de ce qu'on appelle notre fond arrière culturel mandingue, que nous en sortions pour effectivement avoir une élévation républicaine. Parce que quand on est dans la République et que sa position a été minorisée ou que sa position a été en fait acculée, mais en républicain, on peut effectivement faire une déclaration en disant avec bonne foi que j'ai voulu réaliser en fait telle ou telle situation par rapport à mon pays, mais les objections sont telles que, eh bien, je retire ou je remets en fait cette réforme en attendant meilleures conditions. Cela est possible, ça c'est un esprit.
Peut-on s'attendre à cette option du président de la République?
Mais bien sûr, c'est possible, parce que le président de la République, il a été élu sur la base du suffrage universel direct. Donc, il sort, si vous voulez, de sa condition, acceptez-moi l'expression, de sa condition de malien, excusez-moi l'expression, ou de mandingue maintenant, parce que quand on est élu au suffrage universel, on devient républicain. Ce qui prévaut, c'est l'esprit républicain. Et c'est cet esprit républicain qui doit prévaloir quand ça ne va pas, quand il y a hiatus dans un pays.
Merci. Abderrahmane Ben Mamata Touré, est-ce que les manifestations de demain sont maintenues au niveau de la plateforme Anter Abana touche pas à ma constitution?
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne vous donnerai aucune information dans le cadre de cette émission. La plateforme est organisée de sorte que toutes les informations vont être données par des voies autorisées qui ne sont pas les miennes. Donc je m'abstiens de vous dire quoi que ce soit sur ce point. Mais je voulais revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure sur le fait de savoir si le report du projet de révision ne remet pas en cause l'accord d'Alger. Moi, je pense que le fait de reporter simplement ce projet de révision facilitera même la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Parce qu'au début, souvenez-vous, on nous a dit ici que ce n'est pas un accord de paix, mais c'est un accord pour la paix. Donc on va procéder à ce qu'on appelle une mise en œuvre intelligente. Ça veut dire quoi? Qu'on va regarder cet accord, chaque fois que cet accord maintenant nous amène vers la division ou nous amène vers une séparation entre les Maliens ou des questions d'inégalité, on va essayer de corriger ces choses-là. Mais depuis la signature jusqu'à ce jour, on est dans l'application mécanique. Donc comme vous l'avez dit, cet accord est tellement mal ficelé, l'esprit de cet accord est tellement mauvais pour l'unité nationale qu'il ne peut être mis en œuvre en l'état. Donc le fait qu'il y ait ce blocage au niveau du projet référendaire nous permet maintenant d'avoir l'occasion de discuter de tous les points de cet accord, parce qu'on n'a jamais eu cette occasion d'en discuter. C'est le ministre des Affaires étrangères et le haut représentant du président de la République qui est allé négocier cet accord à Alger qui l'a amené. Le peuple a été contourné. Au jour d'aujourd'hui, notre constitution rigide de 92 nous met au centre de la question. Donc il faudrait maintenant qu'on redébatte de cet accord, parce que c'est qu'il y a dedans. C'est fondamentalement important.
Alors si le président de la République retire ce projet, que proposez-vous pour les prochaines étapes par rapport au processus de révision?
Si le président de la République retire ce projet, nous sollicitons simplement la mise en place d'un cadre de concertation avec des expertises locales de toutes les sensibilités maintenant pour venir débattre de toutes ces questions, en parlant d'abord de l'opportunité de la révision, en revenant sur beaucoup de choses que nous avons vécues au Mali et qui doivent être prises en compte dans le cadre de notre pratique constitutionnelle. Au niveau de l'article 118, vous voyez, on avait parlé de l'atteinte à l'intégrité territoriale. Certains se sont référés au droit international, d'autres ont dit que c'est pris en compte par les textes nationaux. Si on a l'occasion de redébattre maintenant du projet de révision, est-ce qu'on ne va pas avoir l'occasion de préciser à ce niveau-là? On va préciser simplement qu'il s'agit d'atteinte à l'intégrité territoriale par des forces étrangères ou des forces intérieures. On peut même ajouter là-dessus en disant que chaque fois que les gouvernants sont également dans une position de faiblesse, qu'on ne puisse pas faire une modification de constitution. Donc, le peu de... Durant cette année 2016-2017, l'expérience que nous avons eue par rapport à cette phase-là, on peut la capitaliser et intégrer même ces données-là dans notre nouveau projet de constitution qu'on va élaborer tous ensemble. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va être formidable pour le Mali, mais aller dans ces coups, je pense qu'on ne pourra que nous diviser. Il faudrait qu'on ait ce cadre de concertation pour qu'on mette le doigt sur toutes ces faiblesses de la constitution et qu'on corrige ces points un à un, et on va aller au référendum. Dans ce cas, ça va être un référendum à 100%. Un référendum même à 60%, ce n'est pas une victoire. Même à 70%, ce n'est pas une victoire. Un référendum se gagne à 98%, à 99%, parce que c'est la constitution qui fonde l'État dans son institution, qui fixe également les règles du jeu, qui se penche sur la question des droits humains et tout ce qui s'ensuit.
Merci,
on ne peut pas aller à une constitution dans ces conditions de division-là.
Docteur Poudjougou, si le président Sursoir retire ce projet de révision constitutionnelle, Maître Touré propose la mise en place d'un cadre de concertation pour bien réfléchir sur comment réviser cette concession. Qu'en pensez-vous?
Je pense qu'il faut toujours une concertation, et c'est ce que j'ai dit dès le départ. Vous avez vu que j'ai commencé par parler de mensonges d'État. Et finalement, on est d'accord avec moi qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication sur l'accord. C'est vraiment un mensonge, parce que nous sommes déjà dans l'application de l'accord. Mais avant de se mettre à appliquer un texte, il faut savoir quel genre de texte est-il. Est-ce qu'il a une valeur juridique? Est-ce qu'il constitue un engagement pour nous? Il ne l'est pas. Mais on nous a toujours fait croire qu'il est un engagement et qu'il faut l'appliquer. On continue encore à parler de l'application. Mais qu'est-ce qu'il est, cet accord? Et il faut revenir encore pour revoir toutes les questions qui touchent la forme républicaine de l'État, qu'il y ait un consensus sur tous ces points pour qu'il puisse y avoir révision.
Révision constitutionnelle.
Ce n'est pas l'accord qui doit obliger la révision de la constitution.
Alors, Maître Diarra, vous avez le dernier mot. Que proposez-vous par rapport à ce processus de révision constitutionnelle?
Bon, moi, je pense qu'on avait déjà proposé quelque chose là-dessus, mais nous n'avons pas été écoutés, parce que lors de la conférence d'entente nationale, il avait été même question que, il y a même un second au médiateur Baba Hakim pour éviter que nous en soyons là aujourd'hui. Bon, mais vous savez, les grandes voix ne sont pas nombreuses dans notre pays, ou si elles sont là, elles ne sont pas écoutées. Moi, je voudrais que le gouvernement écoute. Le gouvernement écoute les citoyens, parce que nous ne sommes pas forcément contre le gouvernement. Mais ce qui est en cause aujourd'hui, c'est les assises même et du pays qui sont en cause. Si jamais M. le Président de la République revenait en de meilleurs sentiments et qu'il adopte une position républicaine en revoyant effectivement la position du gouvernement malien, Mais il peut toujours, il est dans la logique de dialoguer avec tout le monde aujourd'hui. Mais c'est une bonne preuve qu'il peut reconvoquer en fait une conférence d'entente nationale
pour échanger sur ce projet de révision constitutionnelle et pouvoir trouver un consensus là-dessus. Merci Maître Diarra. Alors, révision constitutionnelle, le projet sera-t-il retiré ou maintenu? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Nos invités, Maître Abderrahmane Ben Mamata Touré de la plateforme Ante Abana, Dr Diakari Poudjougo, enseignant à l'université de Bamako, et Maître Amadou Tchéoulin Diarra, avocat. Je rappelle que nos tentatives pour compter parmi nous un responsable de la majorité présidentielle sont restées vaines. À la réalisation, Ibrahim Aran Diallo, à la technique Gagné Kanté, régie vidéo assurée par Peting Diarra, et je suis Mouhamadou Touré. Merci et à la prochaine.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halo Demandé.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.